OK, je pense que le temps est arrivé. Donc, on va recommencer notre étude. Attendez un petit peu, je vais.
OK.
Parfait. Donc, on est lundi soir, le 17 novembre. Maintenant, on va continuer dans notre étude du livre de Ruth. On est dans le chapitre 2. On avait commencé le premier verset du chapitre 2 la semaine passée. Puis là, on va continuer à avancer. Là-dedans, on avait dit que le chapitre 2, verset 1, c'était le verset charnière du livre, parce que auparavant, c'était le départ, la famine, la mort, puis et toutes les malédictions qui sont venues. Puis là, maintenant, Boaz nous est présenté. Puis Boaz, nous étant présenté, maintenant, ça va tout tourner la situation. Puis là, ça va être l'abondance à Bethléem. C'est la moisson des orges, puis les moissonneurs, c'est l'abondance. Puis Ruth vient dans cette atmosphère-là. Elle arrive à Bethléem Juda à ce moment-là. Puis là, ben, graduellement, elle va entrer dans la bénédiction, puis jusqu'à un point où, avec une place vraiment privilégiée dans le Bethléem Juda. Mais c'est tout à cause de Boaz. C'est qu'on va lire à partir du verset 1 de chapitre 2 de Ruth. Il dit: Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec, qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: Va, ma fille. Et elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vient de Bethléem, et il dit aux moissonneurs: Que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent: Que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth: Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit: Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit: On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole, ce qu'on va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore pour ta parole. Merci pour les choses qu'on peut y trouver, notre Dieu, qui sont utiles pour notre vie chrétienne. On te demande, notre Dieu, que tu bénisses ce temps passé ensemble ce soir. Merci pour tous ceux qui sont avec nous ce soir. Puis, tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Puis, on te demande que tu puisses, on sait que tu sais répondre aux besoins de chacun. Qu'encourage-nous, fortifie-nous et qu'on puisse réjouir en toi. Au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, si on avait parlé de Boaz un peu, on avait dit que c'était un parent, donc ça nous parlait de l'incarnation du Seigneur Jésus qui est devenu un homme, il a pris la forme d'un homme, il est apparu comme un vrai homme pour pouvoir mourir sur la croix pour nos péchés, pour prendre notre place. Puis, c'était un homme puissant, on avait dit que c'était un homme puissant, ça veut dire que c'était comme un vaillant héros. Donc, on avait vu dans les juges qu'il y avait des vaillants héros qui venaient délivrer Israël de leurs prédicaments quand ils étaient sous l'emprise de des nations qui les avaient assujettis. Ils criaient à l'Éternel, puis l'Éternel envoyait un homme fort, puis comme Gédéon, qui était un vaillant. L'Éternel l'appelait un vaillant héros, puis Jephté aussi. Puis les autres, c'était des gens qui étaient envoyés par le Seigneur avec la puissance de pouvoir, la puissance du Seigneur pour délivrer. Israël. Maintenant, il dit aussi qu'il était un homme riche. Puis un homme riche est une force qui est soit d'un homme ou d'autres ressources, mais c'est une force. Puis c'est ça qu'il avait besoin ici, là. Mais puis là, il nous donne son nom qui est Boaz. Boaz, ben, tout se résume dans ce nom-là. C'est un nom qui résume toute la bénédiction qui est à Bethléem, Juda, parce que lui est en possession de cette bénédiction-là. Puis c'est comme pour nous le Seigneur Jésus. Il est un type du Seigneur Jésus. Puis le Seigneur Jésus, ben, c'est lui qui a toute l'abondance. C'est lui qui nous donne accès aussi à toute cette abondance-là. Fait que c'est merveilleux parce que de voir l'abondance, on en avait parlé un petit peu la semaine passée, mais sans y avoir accès, ben, ça donne rien dans un sens. Mais dans 2 Rois 7, 1, 2, on voit que c'est par la foi qu'on peut jouir de cette abondance-là. Puis, parce qu'il y avait une famine à Samarie, puis Élisée avait prédit que le Seigneur pourvoirait. Puis dans 2 Rois 7, 1, 2, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Fait que lui, il voyait l'impossibilité. C'est vrai que c'était impossible aussi, mais lui, il n'avait pas la foi pour croire qu'est-ce que Élisée avait prédit. Mais Élisée lui a dit en réponse, Élisée lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc, il dit, tu vas le voir, tu verras que le Seigneur l'a accompli, mais tu n'en mangeras point, tu n'y auras pas part. Puis, quand on voit au verset 18, il dit, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un sicle et 1 mesure de fleur de farine pour un sicle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Puis on voit que même cette parole-là s'est accomplie comme Élisée avait dit, parce que c'est en effet ce qui lui arriva à cet homme, à cet officier-là. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Donc, en plus de la prophétie qui avait été dite, qui semblait impossible, cette prophétie-là s'est accomplie comme il avait été dit. Puis, ce qu'il avait dit en rapport avec l'officier qui n'avait pas la foi, ben, lui, il l'a vu, mais il a été écrasé par le peuple à la porte. Puis, il n'en a pas eu part. Mais Boaz, ben, Boaz, c'est le nom d'une des 2 colonnes qui était devant le temple. Il y avait celle de droite, elle s'appelait Jacquin, et celle de gauche s'appelait Boaz. Donc, quand on arrivait au temple, on voyait ces 2 piliers-là. Les piliers nous parlent de stabilité. C'est ce qui donne la force à la structure, qui soutient la structure. Donc, ici, ces 2 piliers démontraient la stabilité de tout l'édifice qui était le temple. Puis, c'est un peu ça. Puis, Boaz, ben, c'était le nom d'un de ces piliers-là ou une de ces colonnes-là. Mais on avait dit que c'est comme si maintenant, le Saint-Esprit nous présentait Boaz à nous dans le premier verset, mais c'est pas, il ne l'a pas présenté à Ruth à ce moment-là, mais et à Naomi non plus. Mais maintenant, ben, elle va le découvrir dans la suite des choses. À travers toutes les circonstances qu'elle va vivre, elle va apprendre à découvrir Boaz. Mais maintenant que le personnage, et c'est ça que le personnage nous a été présenté à nous autres, Ruth, elle va le découvrir. Puis, on voit dans le verset 2 que c'est l'initiative de Ruth. Parce que elle dit au verset 2, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Donc, on voit que c'est son initiative. Puis, son initiative, ben, elle découle de sa décision qu'elle avait prise. On a vu la décision au chapitre 1, verset 16. Elle avait dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est sûr que de prendre une décision, ben, il faut persévérer dans cette décision-là. Puis maintenant qu'elle est arrivée au lieu de ils ont rejoint Bethléem Juda maintenant, mais là maintenant, elle va continuer dans la même veine. Puis c'est important parce que le Seigneur, il veut qu'on nous voir comme sérieux à rechercher le Seigneur. Puis elle avait pris la décision maintenant. Elle va chercher sa place dans Bethléem Juda. Elle ne le cherche pas avec arrogance non plus. Elle le cherche dans l'humilité. Parce qu'elle sait que ce n'est pas un dû. Elle sait que c'est quelque chose qui doit lui être accordé. Puis elle va le chercher dans le moyen de la grâce qu'on voit ici. Elle dit, comme de glaner, je te prie, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et Naomi a répondu, va ma fille. Donc elle parle de celui aux yeux duquel elle va trouver grâce. Puis elle vient pas pour s'emparer des gerbes, mais elle vient prendre des épis. Les épis, ben, on sait que les gerbes, ben, c'est un paquet d'épis qui sont rassemblés ensemble. Mais elle vient pour prendre une part. Elle cherche au moins une part dans la présence, dans le champ de Boaz ici, là. Mais glaner, on appelle ça glaner, elle venait glaner. Glaner, ça veut dire que c'était un système qui avait été établi par le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël auquel elle venait dans lequel elle venait se réfugier pour trouver ce qu'elle avait besoin, trouver sa part avec le Dieu d'Israël. Mais lui avait déjà pensé à des gens comme ça. L'Éternel avait pensé à des gens comme ça. C'est un petit peu comme aujourd'hui, on a l'aide sociale. Mais c'était un bon système parce que ceux qui étaient indigents, mais qui pouvaient travailler, pouvaient aller puis ramasser des épis à travers la moisson. Dans Deutéronome 24, 19, il avait dit, quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, ben, c'est une étrangère, pour l'orphelin et pour la veuve, elle était veuve aussi, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Donc le Seigneur avait établi un système pour prendre soin de ceux qui étaient indigents, les veuves ou les orphelins ou les étrangers qui venaient. Parce qu'eux, ils sont arrivés au temps de la moisson des orges. Mais quand on arrive au temps de la moisson, on n'a pas eu le temps de semer, là. Mais quand c'est le temps de la moisson, bien, il faut trouver la nourriture qu'on va avoir besoin pour le reste de l'année jusqu'à temps que ce soit le temps de semer. Mais elle n'avait pas de champ. Elle vient avec rien. Elle vient à Bethléem Juda. Puis, mais Dieu avait pourvu pour des gens comme ça déjà. Dans sa bonté, dans sa grâce, il avait déjà pourvu pour qu'elle puisse aller glaner des épis dans un champ où il y a l'abondance afin de ramasser ce qu'il va avoir besoin pour sa subsistance. On le voit dans Lévitique 23, 22 aussi. Il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'était un bon système quand même parce que ceux qui étaient capables, ils pouvaient travailler quand même pour re recevoir cette subsistance-là. C'était quelque chose qui leur était accordé par grâce, dans un sens, d'aller parce que d'autres avaient semé, d'autres avaient entretenu. Et maintenant, au temps de la moisson, ben, ces gens-là qui étaient sans ressources, ils pouvaient venir puis prendre part à ces ressources-là. C'était un bon système pour qu'ils puissent en bénéficier. Mais aussi, on pense à Ruth maintenant, là. Non seulement elle va trouver sa portion pour sa subsistance, mais aussi elle va prendre soin de sa belle-mère qui est âgée. Sa belle-mère peut-être n'était plus en forme pour aller glaner elle-même, mais Ruth, elle va prendre soin aussi de sa belle-mère. Elle va en glaner pour elle et pour sa belle-mère. Ceux qui étaient capables de travailler pouvaient le faire pour aider les autres qui n'étaient peut-être pas capables. Puis on voit dans le Nouveau Testament aussi, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, il nous parle des veuves aussi dans ce chapitre-là. Puis il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. Donc, il fallait il faut prendre soin des nôtres. Puis Ruth était venue avec Naomi. On savait que son nom veut dire une amie, une amitié, c'est quelqu'un qui était fidèle. Puis elle était avec Naomi, mais elle est fidèle ici. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Puis là, au verset 16, il nous dit, si quelqu'un fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves, celles qui étaient sans ressources, ben là, dans l'Église, ben, l'Église devait en prendre soin. Mais s'il y avait des gens dans leur famille qui étaient capables de pourvoir aux besoins des veuves qui étaient dans leur famille, ben, ils devaient le faire. Mais ici, Ruth, elle poursuit sa décision-là. Elle cherche la grâce. Puis, au verset 3, il nous a dit, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Donc, c'était permis. Elle était une étrangère, mais Dieu avait permis que les étrangers puissent faire ainsi. Elle alla glaner, peut-être que c'est Naomi qui l'avait instruit de ces choses-là, parce que Naomi connaissait les lois d'Israël. Puis, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par bonheur. Il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Donc, il nous est répété parce que là, maintenant, c'est elle qui va le rencontrer, qui était de la famille d'Élimélec. Donc, elle se retrouve par bonheur. Puis, on sait que c'est pas par hasard qu'elle se trouve dans le champ. Parce que les gens, ils pensent beaucoup, hein, ils disent qu'il y a des gens qui pensent, ils parlent de chance, je suis chanceux ou je suis malchanceux. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de chance. Le Seigneur dirige. Mais le Seigneur voulait quand même voir son désir. Puis elle le démontre son désir en allant demander pour glaner dans le champ ici. Puis ça, c'était une réponse à sa prière du verset 2, parce qu'elle avait dit au verset 2, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui. Donc elle avait vraiment un but. Elle voulait aller dans le champ de celui aux yeux duquel elle pouvait trouver grâce. Puis le Seigneur l'a dirigé. Puis il dit comme par bonheur, mais c'est vraiment le Seigneur, dans sa providence, l'avait dirigé dans le champ de Boaz, qui était l'endroit, parce qu'elle cherchait refuge dans le Dieu d'Israël. Puis le Dieu d'Israël qui avait pourvu à cela pour les étrangers, les veuves, les orphelins, ben, il avait pourvu pour elle, mais aussi il la dirige pour qu'elle se trouve à la bonne place. Puis elle va arriver dans le champ de Boaz. Donc, on peut comparer ici le champ avec les moissonneurs, puis les serviteurs, tout ça. On peut comparer ça à l'assemblée. L'assemblée, c'est vraiment l'idée de Dieu, l'idée du Seigneur pour rassembler son peuple en assemblée. C'est pas nous autres qui a décidé ça, c'est lui, c'est sa façon d'agir, puis il y a un but là-dedans aussi. Peut-être on va aller dans le psaume 133. On voit ici comment le Seigneur, il veut bénir, mais il veut bénir ses enfants. Pour les bénir, il va les rassembler. Dans le psaume 133, on voit ici du Cantique des degrés de David. Voici qu'il est, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand on parle de demeurer, c'est vraiment d'être liés ensemble. De demeurer ensemble, c'est une place permanente. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand on parle d'Aaron, Aaron, c'était le souverain sacrificateur. Puis le souverain sacrificateur aussi était un type du Seigneur Jésus. Puis il parle ici de l'huile. L'huile, représente le Saint-Esprit qui descend, comme il dit ici, qui est répandu sur la tête d'Aaron, puis qui découle de la tête vers ses membres. Puis on sait que l'Église, quand on parle de l'Église universelle, c'est le corps de Christ. Christ en est la tête, comme Aaron ici. Puis le Saint-Esprit vient, il descend, puis il va aller sur les vêtements, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Puis il parle aussi de la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est une montagne au nord d'Israël. Puis la rosée tombait sur la montagne de l'Hermon, puis descend. Puis c'est ça qui est la source du Jourdain. Puis le Jourdain descend à travers le pays d'Israël jusqu'à la mer de Galilée, ensuite de ça jusqu'à la mer Morte, mais en descendant tout le long du pays d'Israël, eh bien, le Jourdain irrigue le pays, puis c'est là que la bénédiction vient. Quand le pays était irrigué, ben c'est l'abondance. C'est une image qui nous montre ici que Dieu veut donner sa bénédiction, mais il veut la donner sur ceux qui sont rassemblés. Seigneur Jésus nous a dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la présence vraiment du Seigneur Jésus ici qui fait toute la différence quand on est rassemblés. Puis le Seigneur, il nous rassemble comme ça. Parce que le Seigneur, c'est un berger. Il nous a dit qu'il était le bon berger. Mais un berger, ben, il rassemble ses brebis. Il les rassemble pour les protéger, parce que c'est plus facile de protéger ses brebis quand ils sont rassemblés que s'ils sont éparpillés partout. Puis le berger, il fait un travail constamment de rassembler ses brebis, puis d'en prendre soin, de les entourer. Mais aussi pour les protéger, mais aussi pour les nourrir. Il va nourrir ses brebis, il les rassemble ensemble. Puis ça, c'est. Puis ici, c'est dans le champ de Boaz que ces choses-là se font. Le champ de Boaz, puis, mais le champ de Boaz, il est sous l'influence de Boaz, il est sous l'autorité de Boaz, puis il est selon le caractère de Boaz aussi. Puis on voit que l'assemblée doit être comme ça. C'est pour ça que l'assemblée, la façon que ça fonctionne, ce n'est pas les hommes qui décident comment ça va fonctionner, mais c'est selon les directives de la tête, le Seigneur Jésus, qui sont communiquées par le Saint-Esprit. Puis ça, c'est vraiment une grande bénédiction. C'est vraiment l'idée de Dieu de rassembler ses enfants dans l'assemblée. Puis ceux qui n'ont pas compris cette vérité-là, ceux qui n'ont pas compris ce désir-là du Seigneur de rassembler ses brebis pour les protéger, pour les nourrir, pour en prendre soin, ben ils connaissent, ils manquent la grande bénédiction. Comme il dit ici, c'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Parce que l'œuvre de Dieu ici sur la terre, ben, se fait à travers l'assemblée. On a l'assemblée universelle ou l'Église universelle. Ça, c'est l'ensemble de tous les croyants qui sont sur la terre, puis ceux qui ne le sont plus, puis ceux qui vont l'être aussi, parce que l'Église universelle comprend tous ceux qui auront mis leur confiance dans le Seigneur Jésus pour le salut de leur âme, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église universelle n'a jamais pu se réunir dans un seul lieu. La première fois que l'Église universelle va être rassemblée dans un même lieu, tous ensemble, ben c'est quand c'est à l'enlèvement, quand le Seigneur va nous emmener dans sa présence. Puis en un instant, d'un clin d'œil, il va nous transformer, puis on va aller à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Là, l'Église va être rassemblée. Mais l'Église locale est comme une image de l'Église universelle. C'est comme une représentation locale de cette Église universelle-là. Puis, quand on est rassemblés, bien, on est le corps de Christ et le Seigneur Jésus qui est dans le ciel maintenant, qui a été glorifié, eh bien, lui continue d'agir sur la terre à travers son corps, en dirigeant chacun des membres. Puis, chacun de nous, on est des membres, chacun pour sa part. On n'est pas toutes la même chose, on est différents parce que y a les corps, les membres dans le corps sont différents, mais ils ont toutes leurs fonctions. Puis le Seigneur va donner à chacun, en dirigeant chacun des membres, ben, on voit une harmonie si on est à l'écoute de la tête, parce que c'est la tête qui nous dirige, comme le corps est en harmonie. Parce que la tête dirige chacun des membres, eh bien, de la même façon pour l'Église universelle, mais aussi l'Église locale sur la terre, quand tous les membres sont vraiment sous la direction du Seigneur Jésus, qui est la tête, par le Saint-Esprit, bien, on va voir que ça va faire l'œuvre du Seigneur Jésus ici, là. Puis, ça, c'est le champ, c'est l'activité qu'on voit dans le champ, là, ben, c'est la moisson. Moi, je dis, souvent les gens vont nous dire qu'ils sont plus dans des églises locales. Ils vont nous dire, ben, il y a toujours des raisons, hein, il y a quelque chose qui est arrivé. Moi, je dis, ben, dans l'église locale, dans l'assemblée, j'ai été blessé. Puis, je pense que tout le monde peut dire ça, ça fait un bout qui sont dans l'église locale. Puis, j'en ai blessé d'autres aussi. Donc, j'ai été blessé, j'en ai blessé d'autres, mais c'est là que je veux être. Si on a des problèmes, il s'agit de régler les problèmes, mais c'est là qu'est l'endroit où qu'on veut être, parce que c'est d'être là pour être avec le Seigneur. Puis elle entre dans cette activité-là. Puis l'activité, c'est la moisson. C'est sûr que quand on voit les moissonneurs qui ramassaient le gros de la moisson, mais elle avait part à ces choses-là. Elle entre dans cette activité-là. Mais au verset 4, on voit que c'est là qu'elle va rencontrer Boaz. Ça, c'est important. Il fallait qu'elle rencontre Boaz. Il fallait qu'elle ait une rencontre personnelle avec Boaz. Puis c'est là que ça se fait parce que Boaz est dans son champ. Il vient visiter son champ. Puis, si elle n'avait pas été dans ce champ-là, elle n'aurait pas rencontré Boaz. Mais elle vient le rencontrer. C'est là, nous autres aussi, qu'on rencontre le Seigneur. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont sauvés. Moi, j'ai été sauvé dans ma chambre à coucher. Il y en a qui sont. On peut être sauvé n'importe où, mais le Seigneur, il bénit la prédication de l'Évangile dans l'Assemblée. Puis, le Seigneur, Paul, il pouvait dire la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Puis Dieu se plaît par la folie, selon les inconvertis, par cette folie-là de la prédication, il se plaît à sauver des hommes. Puis quand on est ensemble, ben, on peut annoncer cet évangile-là, parce que l'évangile est non seulement prêché dans l'assemblée, mais elle est aussi vécue dans l'assemblée. Puis c'est ça qui est important. Mais c'est là qu'on va rencontrer Boaz, comme on dit au verset 4. Et voici Boaz vint de Bethléem. Vous savez, quand quelqu'un visite, si on n'est pas là, ben, on manque la visite. Mais si on est présent, ben, on va rencontrer celui qui vient visiter. Puis Boaz, il vient ici de Bethléem, Juda. Puis on voit l'attitude de Boaz envers ses moissonneurs. On voit que, comme il leur dit en arrivant, sa salutation envers eux, c'est qu'il leur dit ici, il dit, que l'Éternel soit avec vous. C'est merveilleux, on est dans l'atmosphère du champ de Boaz. Puis en arrivant, Boaz qui a une appréciation pour les moissonneurs, eh bien, il les salue de cette façon-là, que l'Éternel soit avec vous. Puis ces moissonneurs, ben, sont habitués à cela, puis ils ont appris cette chose-là, puis ils répondent à Boaz, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. C'est bon de se saluer comme ça, vous savez. Dans la parole de Dieu, il nous parle de se saluer par un saint baiser. C'est une marque d'affection. Puis quand on se dit que l'Éternel te bénisse, Israël, les autres se saluent par shalom. Shalom qui veut dire la paix soit avec toi. Puis pour les enfants de Dieu, ceux qui sont rassemblés dans le champ de Boaz, c'est bon de se communiquer la bénédiction comme ça, de se souhaiter la bénédiction. C'est une bonne façon, c'est une marque d'affection puis d'appréciation les uns pour les autres. Mais c'est beau de voir cette attitude-là c'est comme c'est Boaz qui initie cette attitude-là. Puis selon lui, ben, les moissonneurs, ils apprennent à lui ressembler. Puis nous autres aussi, en se rassemblant autour du Seigneur Jésus, ben, en le connaissant, on apprend à lui ressembler, puis à être comme lui. Mais les moissonneurs, ici, représentent ceux qui œuvrent à moissonner dans la parole de Dieu pour les brebis. Puis ils moissonnent dans la parole les directives, les instructions. Tout ce qu'on a besoin de connaître pour le peuple de Dieu. Ces gens-là, c'est des gens qui œuvrent dans la parole pour ressortir de la parole, parce que la parole est riche, elle est abondante, mais il faut y travailler. Il faut y travailler pour ressortir les choses qui sont. Je pense qu'on a tous vécu ces expériences-là, avec quelqu'un qui nous fait ressortir des vérités profondes de la parole. Puis ça nous encourage. On voit comment la parole est suffisante, comment elle est abondante, comment elle peut nous nourrir. Puis c'est ça que les moissonneurs étaient. Mais vous savez, une chose que moi je dis, quand on voit une assemblée à quelque part, s'il y a une assemblée qui fonctionne à quelque part, soyez certains que c'est sûr que c'est sous la direction du Seigneur, mais il y a des gens qui se sont investis pour que cette assemblée-là arrive. Moi, je me souviens quand j'ai été sauvé au début de ma vie chrétienne, j'étais sauvé quand je suis arrivé à l'Assemblée. Il y avait déjà là une assemblée qui fonctionnait. Il y avait déjà là des gens qui avaient appris comment marcher dans le Seigneur. Puis moi, j'arrivais, j'étais tout nouveau, je ne connaissais rien, Mais comme il nous parle de ceux qui sont les modèles du troupeau, il y a ceux qui ont été instruits avant nous autres, sont avant nous autres, qui ont été instruits dans la parole pour nous communiquer ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend par leur exemple, puis aussi par leur instruction qu'ils nous donnent. Donc, étant dans le champ de Boaz ici, il y a des moissonneurs, mais il y avait aussi des serviteurs. Puis les serviteurs qui pouvaient, puis il y avait des servantes aussi, mais étant dans le champ, ben, ils faisaient partie de, ils avaient part à cette moisson-là. Là. Puis c'est certain, comme je dis, il y a toujours, il y a des gens qui pensent, oh, ils vont commencer une église, ils vont commencer une église locale, puis ils n'ont pas à cœur, ils n'ont pas assez à cœur pour investir, parce qu'il va falloir qu'ils s'investissent complètement. Puis ça ne va pas à nulle part parce qu'ils ne sont pas prêts à s'investir. Le Seigneur nous parle d'un mercenaire. Un mercenaire ne se met pas en peine des brebis parce qu'il y a des gens qui œuvrent comme ça, là, ils vont se priver même de des choses légitimes pour pouvoir s'investir pour les brebis, pour prendre soin des brebis. Puis ces gens-là, s'ils ne sont pas prêts à s'investir de cette façon-là, bien, ça n'ira pas à nulle part parce que les brebis ont besoin de soins. Les brebis qui sont dans une assemblée ont besoin de soins, ils ont besoin, puis les nouveaux ont besoin de connaître pour pouvoir avancer. Puis le Seigneur a décidé de le faire à travers ces moissonneurs-là. Puis aussi les serviteurs qui sont là, parce que tout le monde dans l'assemblée vont prendre soin de des nouveaux venus qui pour les aider, pour les encourager. C'est sûr qu'il faut pas les décourager. Puis il faut pas, il faut leur donner un bon exemple. Fait qu'on a besoin, nous, de grandir pour être un bon exemple dans dans le champ du Seigneur. Puis ça se fait à l'exemple du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est vrai, il a donné sa vie pour nous racheter, mais le Seigneur Jésus, il s'est sanctifié. Comme il dit, « Je me sanctifie moi-même » dans Jean 17. Pourquoi qu'il se sanctifie? C'est qu'il se met à part, même dans la gloire. Le Seigneur Jésus se met à part pour nous autres, pour prendre soin de nous, puis nous préparer une place. Le Seigneur Jésus est occupé à nous préparer une place pour nous introduire dans la maison du Père. Donc, il dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Puis il nous dit au verset 10 de Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, il est mort sur la croix pour que les brebis puissent avoir la vie et qu'elle l'ait en abondance. Non seulement il est la source de notre vie, mais il est aussi le soutien de notre vie. Il est celui qui va soutenir notre vie jusqu'à ce qu'on soit avec lui. Donc, quelle salutation de la part de Boaz ici, là, qui dit que l'Éternel soit avec vous, puis eux, ils lui répondent que l'Éternel te bénisse. Mais les moissonneurs sont un peu comme les parents dans une famille, un peu comme ceux qui sont en avant, ceux qui sont les dirigeants dans une assemblée, sont un peu comme, ou qu'on peut, la parole appelle les anciens, sont un peu comme les parents dans une famille. Les parents dans une famille, bien, ils doivent pourvoir puis pour la famille, puis ils doivent donner la direction, puis ils doivent protéger la famille. Puis c'est comme ça aussi dans l'assemblée, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils doivent, les parents, c'est sûr que les parents dans une famille, ils ont plus de capacité. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, mon père, c'était un homme qui était travaillant, puis il travaillait pour s'assurer qu'il ne nous manquait rien. Ma mère aussi travaillait, puis elle s'assurait que tout était correct pour qu'on ait un endroit où on puisse vraiment s'épanouir puis grandir. C'est ça qui doit être aussi dans l'assemblée. Puis par le fait même, on apprend de nos parents, parce qu'un jour, bien, on devient parent aussi. C'est comme ça dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a ceux qui sont en avant, ceux qui sont avant, qui ont connu ces choses-là, les transmettent aux autres. Paul disait, ce que tu as appris, transmets-le à des hommes fidèles. Puis ça continue jusqu'à maintenant, ça, de transmettre les choses apprises, les transmettre à d'autres qui venaient après, à l'autre génération. Puis ça s'est rendu jusqu'à nous maintenant. Mais nous autres, on a cette responsabilité-là. C'est d'apprendre. Puis ensuite de transmettre. Vous savez, aussitôt qu'on a commencé à avancer dans le Seigneur, à apprendre des choses, on peut tout de suite les transmettre aux autres. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Si une assemblée locale, les gens sont tous impliqués pour transmettre ce que j'ai connu, je peux le transmettre. La première chose qu'on connaît dans le Seigneur, c'est le salut. Puis quand on connaît le salut, ben déjà là, on a le Seigneur, le Saint-Esprit nous met un désir de le transmettre, d'en parler à d'autres. Puis c'est important. Puis souvent, le Seigneur utilise des nouveaux convertis pour rejoindre tout un nouveau cercle là, ici, là, toute sa famille, ses amis, ses compagnons de travail. Le Seigneur va utiliser des nouveaux convertis pour rejoindre un nouveau groupe de personnes. Donc, déjà au moment, le Seigneur avait dit à l'homme, il dit, va dans ta famille, puis dis ce que j'ai fait pour toi. Donc, déjà là, on est déjà équipé, quand on a le salut en Jésus-Christ, on est déjà équipé pour le transmettre à d'autres. Puis ça nous donne la joie de le faire. Donc, c'est vraiment, le Seigneur il nous demande de faire ça. Donc, puis ensuite, à mesure qu'on grandit, on passe à travers des expériences, parfois difficiles. Mais à travers ces expériences difficiles-là, ben, on peut, comme il nous dit dans 2 Corinthiens 1, il dit, on peut connaître la consolation de Dieu. Puis en connaissant la consolation de Dieu dans les épreuves, ben, on peut transmettre cette même consolation-là à d'autres qui passent par les mêmes épreuves. Donc des fois, quand on passe des choses difficiles, il faut se souvenir que le Seigneur est en train de nous équiper. Moi, je disais à un frère une fois qui passait des choses vraiment difficiles, moi, j'ai dit, regarde, je ne sais pas à quoi le Seigneur te prépare, là, mais il te prépare à quelque chose parce que tu passes vraiment des temps difficiles. Puis, il faut s'encourager là-dedans. Parce qu'un jour, ce sera notre tour de consoler d'autres qui vont passer par les mêmes choses. Mais c'est la même chose pour les choses qu'on apprend dans le Seigneur. Ce qu'on apprend dans le Seigneur, on doit le transmettre à d'autres, qui, eux, vont le transmettre à d'autres aussi. Donc, c'est vraiment important. Puis ceux qui sont en avant, puis on voit, je parlais dernièrement un homme qui était une influence dans ma vie au début de ma vie chrétienne. Puis là, il va avoir 93 ans ces jours-ci. Puis je parlais avec lui, mais je lui disais comment j'apprécie qu'est-ce qu'il a investi en moi. Parce que lui, il s'est investi en moi. Puis j'apprécie ces choses-là. Fait que, mais. Le Seigneur, c'est sa façon de fonctionner là. Donc, ceux qui travaillent à l'enseignement de la parole, ben, ils équipent les autres à pouvoir eux aussi glaner, à pouvoir retirer des choses de la parole. Parce qu'on apprend comme ça par l'usage à trouver nos besoins, notre nourriture dans la parole de Dieu. Puis Ruth, ici, elle va le faire, non seulement, comme on a dit, non seulement pour elle, mais aussi pour pourvoir aux besoins de sa belle-mère, qui est veuve puis âgée. Donc, c'est important. Mais dans le verset 5 à 7, maintenant, Boaz est arrivé, il a parlé à ses moissonneurs, il les a salués. Mais maintenant, il s'adresse à un serviteur. Il s'adresse en particulier à un serviteur qui nous dit au verset 5, Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Donc, c'est celui qui est en charge de la moisson. Il est en charge des moissonneurs, mais il est en charge de tout le champ de Boaz ici. Puis, il dit, il est chargé de surveiller les moissonneurs. À qui est cette jeune femme? Parce que là, maintenant, dans le champ, il y a une jeune femme. Mais si on pense à ce serviteur-là qui n'est pas nommé, puis ce serviteur-là, ben, ça nous fait penser au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en charge. Le Seigneur Jésus a laissé le Saint-Esprit en charge de son Église. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Mais il est venu à nous dans la personne de son Esprit pour venir nous habiter. Le Seigneur Jésus, dans son absence, il ne nous a pas laissés orphelins. Mais ce serviteur-là qui n'est pas nommé, ben, ça nous rappelle le Saint-Esprit comme dans Genèse 24. Genèse 24, Abraham avait envoyé un serviteur qui n'est pas nommé pour aller trouver une épouse pour son fils Isaac. Puis ce serviteur-là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend les biens, les dons que son maître lui a envoyés, puis avec ces dons-là, il fait connaître le fils de son maître, qui est Isaac. Puis, d'après la richesse des dons que ce serviteur-là a, il va démontrer la richesse de son maître. Puis cette richesse-là va être transférée à son fils. Puis son fils, il cherche une épouse. Donc, il va emmener une épouse. Puis ça c'est sûr que ça nous montre comment le Saint-Esprit, ici, on parle des dons de l'Esprit. C'est les dons qui nous viennent de Dieu, qui sont donnés, sont répandus par l'Esprit à chacun pour amener une épouse à son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, ici, on voit que ce serviteur-là, il est en charge ici. Il est chargé de surveiller les moissonneurs. C'est lui qui dirige la moisson. Puis comme le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige. Il faut toujours être vraiment prendre en note que ce n'est pas nous autres qui dirigeons. Même les anciens, ils dirigent sous la direction du Saint-Esprit, sous la direction du souverain berger. Donc, c'est important des fois, on pense qu'en doute, on peut prendre des décisions. Les anciens dans une assemblée, ce n'est pas des gens qui prennent des décisions, c'est des gens qui savent discerner la volonté du Seigneur transmise par son esprit dans sa parole. C'est ça vraiment, c'est dans les situations, c'est de trouver les solutions que le Saint-Esprit nous donne dans sa parole. Mais ça, c'est la façon que le Seigneur a agi dans son absence. Lui, ce serviteur-là, il connaît toute l'information de cette jeune femme-là. C'est sûr que Dieu connaît toutes choses. Mais quand il a demandé à Adam, où es-tu? Ben, il savait exactement où ce qu'était Adam. Mais des fois, c'est pour nous faire prendre conscience de la situation. Puis ici, il vient, puis il voit cette jeune femme-là, il prend notice tout de suite. Il prend note tout de suite qu'il y a cette jeune femme-là qui était dans le champ. Puis le Seigneur, il voit ceux qui se tournent vers lui, qui cherchent vers lui. Le Seigneur, il va les voir. Puis il demande ici, il dit, à qui est cette jeune femme? Donc, il ne dit pas qui est cette jeune femme, il dit à qui est cette jeune femme? Parce que là, avant ça, elle appartenait au Dieu de Moab. Elle appartenait au peuple de Moab. Mais maintenant, elle est venue chercher refuge dans le Dieu d'Israël. Le serviteur ici, il va lui donner toute l'information concernant cette jeune femme. Quand il dit ici, au verset 6, le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme Moabite. Il sait d'où elle vient. C'est une Moabite qui est revenue avec Naomi au pays de Moab. Je pense que ça devait se jaser à Bethléem, là. Mais on sait quand ils sont arrivés à Bethléem, Juda, bien, la ville était émue. Puis ça a devenu le sujet des conversations, là. Ici, Naomi est revenue. Puis elle est revenue avec sa belle-fille, qui était la femme de son fils qui est mort. Puis là, maintenant, ils sont revenus. Puis le serviteur, il sait ces choses-là. Puis il transmet cette information-là à Boaz. Mais non seulement il connaît d'où elle vient, puis qui elle est, mais il voit aussi sa persistance, puis il va transmettre aussi ça il va transmettre ça aussi à Boaz. Mais ici, juste s'arrêter un moment, là, c'est intéressant de voir ici, là, c'est une conversation dans la Trinité concernant au sujet de l'homme. Au sujet de l'homme. Puis c'est beau de voir ça. On sait que le Seigneur Jésus, bien, il trouvait son plaisir parmi les fils de l'homme. Puis on voit des conversations comme ça ici. On voit une conversation dans la Trinité au sujet de. Ici, c'est de Ruth, là, mais on parle de l'homme dans son sens générique. Mais on voit il y a d'autres endroits où la Trinité, on a la conversation qui est dans la Trinité concernant l'homme, hein, comme dans Genèse au chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On voit l'intérêt de Dieu là, pour l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis ensuite de ça, on voit encore dans le chapitre 2 de Genèse, au verset 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est toujours dans l'intérêt de l'homme. Quand la Trinité s'entretient de l'homme, puis ça nous fait penser au Seigneur Jésus qui était constamment, il trouvait son plaisir parmi les fils de l'homme. Puis Dieu trouve son plaisir. Des fois, on se demande pourquoi que Dieu trouverait son plaisir en nous, surtout du fait qu'on s'est éloigné de lui, on est devenu étranger. comme Moab, comme Ruth était une étrangère, ben nous, on s'est aliénés de Dieu à cause du péché, parce qu'on a suivi Satan. Mais Dieu s'intéresse à nous. Puis Dieu, il veut, c'est lui qui est venu, il a initié, il a accompli un plan pour nous ramener à lui. C'est ça qui nous il fait notre joie. Si Dieu n'était pas comme ça, ben, on n'aurait jamais eu de salut. Puis on voit que Boaz, il va s'intéresser à Ruth. Il s'intéresse à elle, même si elle est une étrangère. Puis elle va le dire, quand il va parler à son cœur, elle va dire au verset 10, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. C'est comme si elle ne comprend pas là, pourquoi que tu t'intéresses à moi comme ça. Puis elle découvre vraiment dans Boaz quelqu'un qui prend un vif intérêt à sa personne en s'informant de qui elle est, puis il va s'adresser à elle aussi, là. Donc c'est, mais il y a une conversation dans la Trinité qui est vraiment intéressante pour nous, là. C'est quand le Seigneur Jésus, il s'adresse à son Père dans la prière, on appelle la prière sacerdotale du Seigneur Jésus. Sacerdotale, donc c'est comme le souverain sacrificateur qui intercède pour pour le peuple dans la présence de Dieu. Puis le Seigneur Jésus, ben, quand on lit le chapitre 17 de Jean, là, c'est vraiment une belle lecture. Là, on voit qu'il s'adresse en notre faveur. Comment que le Seigneur Jésus s'adresse à son Père en notre faveur. Il dit qu'il les a protégés, puis il veut qu'ils soient un. Puis on voit toutes les instructions qu'il demande au Père ici là, pour ses disciples, ses brebis. Mais le serviteur, lui, il a pris conscience des détails concernant Ruth. Comme on disait, il y avait les conversations qui se passaient, puis le serviteur, il avait assez d'intérêt pour Ruth pour apprendre qui elle était. Puis il la transmet à Boaz. Là. Puis mais aussi, non seulement il parle de sa personne, de qui elle est, mais de son activité aussi. Parce qu'elle est, elle démontre son désir de trouver refuge dans le Dieu d'Israël. Puis il dit ici au verset 7, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser. Donc elle n'a pas réclamé, mais elle a demandé. Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Puis regardez sa persistance. C'est un peu comme s'il intercède pour elle. Cet esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Puis il intercède auprès de Boaz, puis pour lui montrer vraiment son caractère. Il dit ici, depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Fait que, il démontre vraiment comment elle était persistante, comment vraiment elle avait un besoin. Puis le Saint-Esprit, il sait tout à propos de nous autres. Il nous connaît. Puis il transmet, il intercède pour nous. Puis le serviteur ici, il intercède auprès de Boaz en faveur de Ruth ici. Non seulement il lui transmet les renseignements concernant sa personne, mais aussi concernant son activité. Puis le Seigneur, il voit quand on cherche, le Seigneur le voit, puis il veut voir il dit, si vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Puis c'est ça qu'il voit maintenant en elle ici, là. La persistance est mise en évidence, sa persistance de rechercher, parce qu'elle est partie du pays de Moab pour venir se réfugier dans le Dieu d'Israël avec Naomi. Elle est venue, elle dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, puis que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Donc, elle est vraiment déterminée, puis elle cherche ce refuge, puis ceux qui cherchent refuge dans le Seigneur, ils vont toujours trouver le refuge. Parce que le Seigneur a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Puis quelqu'un avait dit, un pécheur qui cherche, puis un sauveur qui cherche vont toujours se rencontrer. Surtout parce que le sauveur, le Seigneur Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Puis lui, il prend, comme ici, Boaz, il s'informe de cette femme-là. Le Saint-Esprit lui donne l'information, il intercède pour cette femme-là. Ben, c'est comme ça que ça se passe aussi pour nous autres quand on est étrangers de Dieu. Puis qu'on vient chercher notre refuge en lui, eh bien Dieu, il va faire en sorte qu'on puisse le trouver. Il va nous diriger comme il l'a dirigé pour qu'elle arrive dans le champ de Boaz. Elle aurait pu aller dans un autre champ. Mais c'est les autres champs, les propriétaires n'étaient pas des proches parents qui pouvaient la bénir comme elle va être bénie plus loin quand on va continuer dans le livre ici, là. Mais vraiment, Dieu l'a dirigée. Puis le Seigneur, il nous dirige aussi. On voit, quand on est venu au Seigneur, on voit que c'est lui qui nous a dirigés, puis nous a amenés dans sa parole, avec des serviteurs qui nous ont conduits dans sa parole. Souvent, ça se fait avec des serviteurs parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit des orphelins. Il veut qu'on ait des gens qui nous aient conduits à lui. Puis on a confiance en ces gens-là parce que nous ayant conduits au Seigneur, ils vont pouvoir nous diriger après, dans leur exemple, puis dans leur enseignement, parce qu'eux, ils sont déjà un peu plus loin que nous autres, comme on a dit tantôt. Donc, c'est important. Mais Dieu, ici, Boaz, il voit sa persistance. Il voit, puis il va lui dire par après que ces traits-là lui l'ont marqué. Il voit que c'est une femme de valeur, parce qu'elle cherche, puis lui, il va la combler à travers ça. Ce que je vais m'arrêter là, on n'ira pas plus loin. Au verset 8 et 9, on voit maintenant que c'est maintenant Boaz s'adresse à elle. Ça, vraiment une belle étape, là, quand il a parlé aux serviteurs en charge des moissonneurs. Mais là, maintenant, avec l'information, maintenant, il va venir s'adresser personnellement avec Ruth. Puis on verra ça la semaine prochaine, Seigneur voulant, comment que ça s'est passé aussi pour nous autres quand le Seigneur, pour la première fois, s'est adressé à nous. C'était un moment merveilleux. C'est que je m'arrête là, je vous donne la possibilité de reprendre votre micro et vous allez, si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions, on va passer un temps jusqu'à 8 heures. Ouais. Oh, non, là, je pense qu'on a la joute de hockey. C'est pas la joute de hockey qu'on voulait avoir, c'est OK. Bon.
J'aimerais revenir au verset 4, Gérald.
Okay. Ouais. Attends un petit peu, je vais. Parce que là, ça.
C'est Jérémy, hein?
Ouais, c'est Jérémy. Attends un petit peu, je vais. Attends, je le cherche, là. C'est pas long.
Muter Jérémy.
Oui, c'est ça, j'essaie de le mettre en sourdine.
Oui, oui, c'est correct. J'ai coupé le fait.
OK, tu l'as fait, OK, merci. Merci. Je cherchais, je ne trouvais pas.
OK.
OK, vas-y, Lévi.
Oui, alors, je trouve ça beau, le verset 4, naturellement.
Oui.
Tout ce que tu as mentionné ce soir, ça inclut là. Alors, ça dit, voici Boaz vint de Bethléem, de la maison du pain. Hein?
Oui, c'est ça, oui.
On peut penser au Seigneur qui est venu du ciel aussi. Hein?
Oui.
C'est ça, hein? Le pain, la manne céleste.
Oui, c'est ça. Le Seigneur a dit qu'il était
Qui
la
est
manne qui
venu du
était descendue du
ciel.
ciel. Ouais.
Il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Alors, on voit la relation entre le patron et les employés.
Oui.
Ce n'est pas ce qu'on rencontre souvent aujourd'hui, là.
Non, non.
Bon. On peut dire que cette relation-là existait peut-être autrefois, je veux dire, dans le temps de nos grands-parents.
Ouais.
Nos grands-parents engageaient des gens sur la ferme, puis il y avait des relations comme ça. C'était beau, hein? Mais
Ouais.
aujourd'hui, c'est tellement différent. Alors, que l'Éternel soit avec vous, c'est le souhait du patron. Il lui répondait que l'Éternel te bénisse. Donc, ça me fait penser justement dans Éphésiens, hein, quand Paul il mentionne la relation entre l'employé et son employeur. Éphésiens chapitre 6.
Ouais.
Comment est-ce que l'employé doit se comporter envers son employeur comme s'il était au service du Seigneur?
Ouais.
Ça fait réfléchir, hein?
Ouais. Puis aussi comment l'employeur doit traiter ses employés.
Ouais, ça fait réfléchir. Puis l'employeur doit aussi se comporter d'une manière à ce que il est écrit dans les faits. C'était ma
Il y a peut-être
réflexion.
moins de
Merci. Merci.
grève.
Ouais.
J'avais fait un voyage avec un des anciens dans l'assemblée où j'étais. Puis lui, il était un employeur, puis il y avait des employés. Puis il communiquait avec son employé, il était dans un bureau. Puis il communiquait avec lui par téléphone pendant qu'on était sur la route. Puis c'était vraiment beau de voir comment il traitait son employé. Puis là, il lui disait, mais fais attention, là, fais-toi pas mourir. Là, mais je savais que cet employé-là, il faisait tout pour lui. Là. Parce qu'en réponse à sa bienveillance, là, je savais il savait qu'il était dévoué pour lui, mais il lui disait de prendre soin de faire ça. Puis finalement, quand il a pris sa retraite, lui, il avait dit à ses patrons, traitez-le comme il faut. Parce qu'il va prendre sa retraite puis traiter-le comme il faut.
On voit aussi, Gérald, dans le verset 2 et 3, que Ruth fait la demande à Naomi.
Ouais.
Et la manière qu'elle demande, il dit, laisse-moi, je te prie. Laisse-moi.
Ouais.
Laisse-moi. C'est beau de voir ça, de comment elle fait cette demande.
Ouais.
Elle dit aussi, dans les glanés, dans le champ de celui auquel je trouverai grâce. Elle s'attendait à avoir la grâce de Dieu se manifester. Et elle va se manifester. Puis là, Naomi dit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et moi, quand j'ai grandi sur une ferme, pour avec Gérard, et nous autres, on a fait ça de la moisson. On a moissonné, nous autres, on appelait ça des stocks. Des gerbes, on les mettait quatre par quatre. Elle est partie, là. Elle n'est pas allée dans le champ à l'extrémité des propriétés. Peut-être qu'il y en avait plusieurs champs. Mais elle est allée dans le premier champ qu'elle a rencontré. Elle n'est pas allée au deuxième, au troisième. Elle est allée dans le premier. Et là, on le voit bien. Et il se trouva par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Que la pièce de terre appartenait à Boaz. Et quand il est parti de chez Naomi, le premier champ qu'elle a rencontré, c'était le champ qui appartenait à Boaz. Dieu dirigeait et Dieu dirige. On n'a pas besoin d'aller à 500 000, exemple, c'est un exemple, je te donne.
Par hasard, c'est
L'exemple de l'assemblée. Le Seigneur nous dirige toujours vers une assemblée en général qui est proche et aussi qui débute, qui est déjà établie. Dieu ne dirigera pas vers une assemblée que tout est en cafouillis, comme on dirait, mais vers une assemblée en général qui débute, et moi, c'était ça mon cas. Le Seigneur m'a dirigé vers une petite assemblée qui débutait sur la rive sud de Québec. Ben, c'était un petit court témoignage par rapport à ça, l'importance que le Seigneur dirige, puis le Seigneur ne nous dirigera pas à des endroits qu'on peut, comme on dit, qu'on peut risque de se perdre, parce qu'on est des brebis, puis une jeune brebis qui vient au Seigneur, elle a besoin d'être encadrée, d'être surveillée, d'être nourrie, d'être abreuvée.
Moi, c'est ça que j'ai vu dans mon expérience, c'est quand un groupe, une assemblée est en harmonie, qui fonctionne en harmonie, le Seigneur, il peut ajouter. Parce qu'il va ajouter, le Seigneur, il envoie ses brebis où on va prendre soin d'eux autres. Parce que si on ne prend pas soin d'eux autres, c'est dangereux pour les brebis des nouveau-nés, ils ont besoin de soins. Puis il faut qu'on soit capable de leur donner des soins. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement des gens faciles que le Seigneur va nous envoyer. Il y avait un frère qui me disait ça une fois. Il disait, ah ben, si le Seigneur, il voit qu'on est capable d'en prendre soin, il peut nous les envoyer. Oui, attends, c'est OK. C'est pas long. Laisse-moi. Attends, faut que j'aille ici. OK, je demandais encore que. OK, est-ce que tu peux prendre ton micro, là, maintenant?
Ouais, moi j'aurais, sans trop élaborer, j'aurais le même témoignage que notre frère Daniel.
On a un véhicule qui s'en vient.
Vraiment, vraiment, le Seigneur m'a tout de suite amené à une assemblée où je pourrais grandir. J'ai vraiment vu, surtout avec les années, j'ai vraiment vu la main du Seigneur juste après ma conversion.
Mais moi aussi, avant d'être sauvé, j'ai fait le tour de l'Amérique du Nord pour trouver, j'ai rien trouvé, puis le Seigneur m'a ramené ici, puis il y avait, dans mon petit village en Gaspésie, qui était loin de tout, il y avait une assemblée là qui était capable de nous recevoir. Puis on a été reçus, puis on apprécie, j'ai toujours apprécié ça, le fait qu'on a été reçus par des gens, que ça faisait pas nécessairement, c'était une assemblée qui débutait, comme Daniel disait, là, Puis, mais ils ont été capables de nous donner ce qu'on avait besoin.
Quand on visite les assemblées aussi, quand on va ailleurs, on est toujours, c'est rare qu'on est mal reçu, là. On est toujours bien accueilli.
Ouais.
Ils s'intéressent à nous, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait.
Ouais. Ouais, aujourd'hui, je suis allé visiter un frère ici qui ne peut plus venir à l'assemblée. Il est vraiment même presque au lit tout le temps, là. Mais celui qui prend soin de lui, je parlais avec Bruno du Seigneur, puis là, on y parlait à lui du Seigneur, puis lui, il m'a dit, il y a quelque chose que vous autres, vous avez, c'est que vous vous tenez ensemble. Il dit, nous autres, on n'a pas ça.
Ouais.
Fait que,
On voit aussi, Gérald, que au verset 5 et 6, il dit, Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, qui est cette jeune femme? Et c'est spécial que Boaz ait remarqué ça. Il a demandé ça au serviteur. Mais pourquoi qu'il l'a demandé? Le serviteur, il va lui donner la réponse. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et on sait, quand on a lu dans le chapitre 1, Naomi et Ruth ont rentré, toute la ville de Bethléem était dans l'émotion. Était dans l'émotion. Parce que Boaz et Élimélec, le mari de Naomi, c'était des parents, c'était les plus proches parents. Et il connaissait les gens de Bethléem, même si ça faisait 10 ans qu'il était parti. Naomi, les gens ne l'avaient pas oublié. Ils n'avaient pas oublié aussi Élimélec. Mais ils ne connaissaient pas Ruth à travers tout ça. Mais qu'est-ce que les moissonneurs disent? Elle a dit, OK, ça c'est Ruth qui dit. Mais ce que le moissonneur dit, et depuis le matin, verset 7, deuxième partie, le matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. C'est ça qui a touché le serviteur. Elle a vu que Ruth, comme on dit, ça, ramasser des grains, c'est parce qu'elle a ramassé ça à quatre pattes. Hein. Elle peut tout le temps pencher parce que les épis sont à terre. C'est comme recueillir, nous autres, on ramassait des pommes de terre quand on ramassait ça. C'est un peu le même principe, mais c'est plus délicat.
C'est
Et
ça.
c'est ça qui a touché le serviteur, puis c'est ça qui ça a fait de quoi de remarquable. Puis j'en fais une application aussi à notre vie chrétienne. Quand on est venu au Seigneur, moi, j'allais à une petite assemblée sur la rive sud de Québec. Puis je me tenais avec un couple qui m'avait pris sur la. Qui me suivait. Parce que le frère, puis il s'occupait de moi, puis il parlait. Il venait, Daniel, il dit, viens, viens parler, on va ouvrir la parole, puis on va regarder tel passage. Il aimait ça, puis il m'invitait chez eux. Mais ici, pas de repos. Peu de repos. Quand on vient au Seigneur, il faut, comme on dit, en ramasser de la nourriture. Il faut en ramasser, en recueillir. Et c'est là qu'on récolte des fruits. Et c'est là aussi que le Seigneur fait qu'on puisse connaître notre don.
Ça va.
C'est ça. Puis ça, quand on développe notre don, qu'on connaît notre don, c'est le plus beau, c'est quand c'est à l'Assemblée. C'est à l'Assemblée, c'est là, moi, j'ai connu mon don. Moi, je ne savais pas ce quoi, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je comprenais rien dans ça. Il dit, Daniel, tu as tel don. C'est ça. Et c'est à l'Assemblée, puis c'est comme on dit, c'est dans le champ. C'est dans le champ de l'Assemblée.
C'est là que tu vas pouvoir l'utiliser, ouais.
Oui,
Mais
c'est ça.
c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il a demandé. Il dit, à qui est cette jeune femme? C'est notre appartenance. Parce qu'on appartient à un ou à l'autre. On est soit qu'on appartient au Seigneur, ou si on appartient pas au Seigneur, on appartient à l'ennemi. Elle, c'est ça, là, à qui est-ce, comme il dit ici, à qui est cette jeune femme?
Oui, puis on voit Boaz. Boaz qui est un disciple du Seigneur. Les serviteurs, qui sont les ouvriers, comme on dit, on pourrait dire aussi dans l'assemblée, les anciens ou les diacres. Eux autres, ils reconnaissent que telle personne qui est là pour le Seigneur.
C'est qu'on va prier parce que ceux qui doivent partir, on a dépassé un petit peu l'heure. Fait que ceux qui doivent partir vont pouvoir partir, mais si on veut continuer, on peut continuer à jaser pareil après. Mais on va terminer dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour toutes ces choses qui sont de valeur pour nous, Seigneur, pour nous enseigner tes voies, pour nous faire connaître ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Puis on te remercie que tu prends soin de nous, tu t'intéresses à nous, notre Dieu. Puis tu veux qu'on te connaisse, tu veux qu'on apprenne à te chercher, à te servir. On te remercie pour tout ça, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.